et tous. J'ai une version, j'ai donné à Simone une version en anglais, il y a aussi une version en russe, mais je crois que les frères, et j'ai oublié, j'ai pas fait en albanais, désolé. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup à nos sœurs camerounaises, c'était magnifique de pouvoir louer le Seigneur dans toutes nos langues et dans la diversité aussi des cultures de notre monde. Une petite question pour commencer, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne entre le 2 et le 5 juin de cette année? Le jubilé de qui? De la reine Elisabeth. Exactement. D'ailleurs, je crois que le Nigeria fait partie du Commonwealth. Hein, de... 70 ans de règne, le plus long règne pour un monarque en Grande-Bretagne. Nous, alors français, on regarde peut-être ça avec une certaine distance de ce côté-ci de la Manche. Pour nos voisins outre-Manche, c'était vraiment un événement historique de toute première importance. Et on va regarder juste une petite minute d'interviews qui ont été faites quelques jours avant le début du jubilé. Voilà, juste quelques petites interviews pour... voilà, alors c'est vrai que nos amis britanniques ont, j'ai envie de dire, presque une prédisposition pour ce genre de grands événements très dignes comme ça. Mais on voit bien qu'il y avait une volonté de tous les Britanniques, une majorité de Britanniques en tout cas, je ne sais pas si c'était complètement partagé par tout le monde, mais en tout cas de fêter cet événement d'une manière digne de cette reine qui règne sur le Royaume-Uni depuis 70 ans. Fêter dignement, être à la hauteur de l'événement, que ce soit au niveau national avec 4 jours fériés, ça on les aura jamais nous en France, hein, 4 jours fériés pour voilà, juste individuellement s'habiller d'une manière particulière, organiser une fête, lever un toast, décorer. En tout cas voilà, le pays, et on l'a vu peut-être pour ceux qui ont un peu suivi ce qui s'est passé, a voulu fêter, être à la hauteur de cet événement historique. Et ce matin, nous allons entendre aussi un encouragement par la voix de l'apôtre Paul à vivre à la hauteur d'un événement historique. Écoutons Paul. Conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dit autrement, vivez à la hauteur de ce que Jésus a accompli. Pour ceux d'entre vous qui étaient là il y a 3 semaines, on a écouté Élisée qui nous a parlé du fait d'être disciple, de faire des disciples. Et on avait dès le départ prévu ce temps d'échange, de formation, d'enseignement en deux phases. Une première phase avec Élisée le 22 mai dernier sur la question d'être disciple, de faire des disciples. Et puis aujourd'hui, nous allons voir, on va dire, l'étape d'après. Celle de vivre en tant que disciple. Comment est-ce que cette vie de disciple, je la vis au quotidien, dans ma vie de tous les jours? Comment est-ce que je suis appelé à vivre ma foi? Et je vous propose qu'on lise la suite de cette exhortation de l'apôtre Paul. L'exhortation d'il y a 3 semaines, c'était celle-ci, dans Matthieu 28, « Allez dans tous les peuples et faites de mes disciples ». C'était sur ces versets-là qu'Élisée avait apporté la prédication. Et aujourd'hui, donc, on va lire dans la lettre que Paul a écrite aux chrétiens de la ville de Philippe, qui se situe dans le nord de la Grèce. On va lire le chapitre 1, verset 27, jusqu'au chapitre 2, verset 15, et j'inviterai Clémence et Isaac aussi à venir, puisque ce sera une lecture à plusieurs voix. Donc on retrouve cette exhortation du début, Philippiens chapitre 1, verset 27, jusqu'au chapitre 2, verset 16. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ. Ainsi, que j'aille vous voir ou que je reste absent, j'apprendrai que vous demeurez bien unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi en la bonne nouvelle. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera pour eux le signe qu'ils vont à leur perte et que vous, vous êtes sur la voie du salut. Et cela grâce à Dieu. Car vous avez reçu la grâce de servir le Christ, non seulement en mettant votre foi en lui, mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour vous apporte du réconfort, et si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, alors comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est uni à Jésus-Christ.
Il possédait depuis toujours la condition divine.
Mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu.
Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait.
Et il a pris la condition de serviteur.
Il est devenu un être humain parmi les êtres humains.
Et il a été reconnu comme un homme.
Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant.
Jusqu'à la mort sur une croix.
C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place.
Et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom.
Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre
se mettent à genoux.
Et que tous reconnaissent publiquement
le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père.
Ainsi, très chers amis, vous avez toujours été obéissants quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, soyez-le encore plus maintenant que je suis absent. Agissez pour votre salut, humblement, avec respect, car c'est Dieu qui agit parmi vous et qui vous donne de vouloir et d'agir selon son projet bienveillant. Faites tout sans vous plaindre ni discuter, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens de ce monde qui sont malfaisants et qui ont l'esprit tortueux. Vous devez briller parmi eux comme des lumières dans le monde, en leur présentant la parole de vie. Merci. Conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans ce premier verset de notre passage, Paul annonce le programme d'une certaine manière. Et j'aimerais retenir dans ce passage trois éléments qui, je pense, caractérisent une vie à la hauteur de la bonne nouvelle de Christ. Premièrement, une vie digne de l'Évangile, c'est une vie qui se déroule dans un contexte hostile. Deuxièmement, une vie digne de l'Évangile choisit de prendre Jésus comme modèle. Et troisièmement, une vie digne de l'Évangile a un impact sur son environnement. Et le premier point qui ressort de ce passage, c'est peut-être pas forcément celui qu'on aimerait trouver quand on réfléchit à notre vie au quotidien. On ne cherche généralement pas les difficultés, on n'a pas envie d'être face à des vents contraires. Et pourtant, quand on lit le texte qu'on vient de lire, c'est quelque chose qui apparaît assez nettement. Dès le départ, l'apôtre Paul parle de combattre, de combat, de lutte, selon les traductions. Il parle aussi d'adversaire. Et tout à la fin, il utilise cette expression de génération, selon les traductions, hein, perverse, ou bien de gens de ce monde qui sont malfaisants et qui ont l'esprit tortueux, dans la traduction qui est utilisée ici, qui est la traduction de la Nouvelle Bible en français courant. Un contexte loin d'être facile. Et je pense que c'est ce premier point nous apprend ou nous rappelle qu'une vie de disciple, ce n'est pas une vie qui est semée de pétales de rose, ce n'est pas une vie, un long fleuve tranquille, comme on dit. Mais de quelle hostilité est-ce qu'on parle ? De quelle hostilité est-ce qu'il est question ici ? Quelles sont les difficultés qui attendent les disciples de Christ ? Qui faut-il combattre ? Qui sont nos adversaires ? La réponse dans ce texte n'est pas forcément très claire, et les termes que Paul utilise sont assez généraux. Hein, il ne va pas dire c'est les gens qui pensent de telle manière ou de telle manière. Et je pense qu'un indice qui nous est donné pour répondre à cette question se trouve dans le mot grec qui est traduit par génération, ou dans la traduction d'ici par gens de ce monde. C'est le mot grec généas, qu'on retrouve dans généalogie, qui en fait recouvre tout le genre humain, toute la race humaine. Et le terme de monde qui est utilisé, hein, gens de ce monde, on sait que dans la Bible, le mot monde peut avoir différents sens, mais ici on va retrouver le sens que Jésus lui donne. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont déjà lu ce texte dans l'évangile de Jean, Jésus parle des disciples comme étant dans le monde, mais n'étant pas du monde. Donc on retrouve cette même idée ici. Donc l'hostilité dont parle Paul, tel que moi je le comprends, ce n'est pas une hostilité qui concerne des personnes en particulier, ou des groupes de personnes en particulier. Elle provient d'un contexte, elle provient d'une culture. La culture, c'est ce dans quoi on vit. C'est ce qui nous entoure, notre contexte social, l'ambiance dans laquelle on vit et qui fait d'une certaine manière partie de nous, hein, qui nous, on vit dans une culture. C'est une certaine manière aussi de voir le monde, ce qu'on peut appeler une vision du monde aussi parfois. Et cette vision du monde, cette culture, elle peut changer selon notre origine géographique, selon notre origine sociale. Ici, on est en France, en 2022. Et donc, on vit dans une immergé dans une culture qui est celle de l'Occident, on va dire, mais qui a aussi des particularités liées à la France. On va avoir peut-être même aussi des particularités en Lorraine. Ça, c'est la culture dans laquelle on vit. Et ce que nous dit Paul, c'est qu'au moment où il écrit cette lettre, la culture majoritaire dans laquelle vivent les chrétiens de Philippe est une culture qui est hostile aux disciples de Jésus. Donc la question se pose de savoir comment aujourd'hui, en 2022, on peut comprendre cela. Et pour moi, je vous propose ce matin de considérer que pas plus qu'au premier siècle de notre ère, pas plus à l'époque où Paul écrit, aujourd'hui, nos adversaires ne sont des personnes bien identifiées ou des groupes de personnes. Peut-être contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Nos adversaires, ce ne sont pas les musulmans. Nos adversaires, ce ne sont pas les athées militants qui veulent réduire la foi à néant, qui se moquent de la foi chrétienne. Nos adversaires, ce ne sont pas les partisans de l'extrême droite ou les partisans de l'extrême gauche ou tout autre groupe auquel on peut penser. Les adversaires des disciples de Christ, en 2022, comme au moment où Paul écrit sa lettre, ce sont les éléments de la culture qui s'opposent aux valeurs du royaume de Dieu, qui sont hostiles à ces valeurs. Et dans d'autres passages, Paul souligne que ces éléments hostiles aux valeurs du royaume de Dieu sont en fait des réalités spirituelles. Ce n'est pas juste des éléments purement matériel ou des idées, il y a des réalités spirituelles. Paul parle de puissance, de domination. Voilà, moi, je pense, avec plusieurs autres interprètes, que c'est ça que recouvre cette expression parfois un peu étrange quand Paul parle de puissance et domination. C'est ces éléments de la culture qui vont contre Dieu, contre les valeurs du royaume de Dieu. Alors, si on faisait un sondage parmi vous, quels sont pour vous les éléments de notre culture, de la culture occidentale, de la culture française, qui vous paraissent aller à l'encontre de ce que Dieu attend de la part de ses disciples, je pense qu'on pourrait avoir des réponses assez différentes d'une personne à l'autre, en fonction de notre caractère, de notre expérience. Mais je pense que certains traits sont assez communs, assez généraux, pour faire l'unanimité. J'en ai retenu 5 de mon côté. Une culture de l'égocentrisme, une culture de l'insatisfaction, une culture de la violence, une culture de la manipulation, une culture en manque d'espoir. Alors c'est un tableau qui peut sembler bien sombre, hein, et il faut, je pense, se garder de caricaturer quand on décrit notre culture. Mais si on doit chercher dans notre culture des éléments qui vont à l'encontre des valeurs du royaume, je pense que celles-ci peuvent venir assez rapidement à l'esprit. Quand je dis qu'il ne faut pas caricaturer, c'est que notre culture n'est pas que marquée par cela. Il y a des choses positives aussi. Et Dieu agit par sa grâce dans notre culture également. Alors donc, la vie de disciple, c'est une vie qui se déroule dans un contexte d'hostilité. Le combat à mener, ce n'est pas un combat contre des groupes de personnes, mais c'est un combat contre des aspects de la culture qui sont hostiles à Dieu. La question se pose, mais comment ? Comment doit se dérouler ce combat ? Et là, je dois dire qu'on a un peu une surprise de la part de l'apôtre Paul. Si on prend le verset où il parle des adversaires, verset 28, je vais le relire. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera pour eux le signe qu'ils vont à leur perte, et vous, vous êtes sur la voie du salut, et cela grâce à Dieu. Paul demande de ne pas avoir peur. Et c'est tout. N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'hostilité qu'il faut être effrayé. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'opposition qu'il faut avoir peur. Continuez à vivre votre foi, continuez à vivre votre vie de disciple. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. On s'attendrait quand même peut-être à des conseils un peu plus offensifs. Ben non. Un peu plus loin, quand il parle de des gens de ce monde qui sont malfaisants, qui ont l'esprit tortueux, qui est parfois traduit traditionnellement par génération perverse, quand même un terme très fort, hein. Qu'est-ce que demande Paul aux chrétiens de Philippe ? De briller comme des lumières et de porter la parole de vie. Être témoin, rayonner et apporter la vie. Vous connaissez sans doute, hein, le dicton français qui dit que la meilleure défense, c'est quoi ? La meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Paul ici, il dit exactement le contraire. La meilleure défense, c'est de persévérer, sans être effrayé, et c'est de témoigner. La meilleure défense, c'est pas de démontrer que l'autre, il a tort, qu'il dit n'importe quoi. La meilleure défense, c'est pas de rendre coup pour coup. La meilleure défense, c'est pas de vouloir recréer une sorte de civilisation chrétienne qui serait en danger. La meilleure défense, en tant que disciple de Christ, c'est persévérer et témoigner. Premier aspect de la vie de disciple, un contexte d'hostilité. J'aimerais terminer de parler de ce premier aspect en commençant à évoquer le suivant, le fait d'avoir Jésus pour modèle. Jésus a connu l'hostilité, hein, je pense qu'on peut le dire. Jésus a connu le rejet et il a annoncé que ses disciples, qui ne sont pas supérieurs à leur maître, allaient aussi connaître l'hostilité et le rejet. Jésus a été mis à mort. Presque tous les disciples, les 12 disciples, ont été martyrisés, ont connu la mort en tant que martyrs. Vous avez peut-être entendu aussi qu'il y a une semaine, pendant un culte dans une église au Nigeria, il y a eu un attentat, plusieurs dizaines de morts. Nous avons aujourd'hui encore des martyrs pour la foi dans notre monde. Comment Jésus a-t-il répondu à cette hostilité? Pas de logique de vengeance. Pas de... Il répondait aux questions, certes, et parfois il répondait de manière à dénoncer le péché, mais jamais il n'a attaqué, jamais il n'a été dans une position, dans une posture offensive. Il a persévéré dans son ministère jusqu'au bout, et il a témoigné jusqu'au bout. La manière de faire des disciples s'accorde à la manière de faire de leur maître, Jésus-Christ. C'est le deuxième point. Premier point, donc une vie marquée par un contexte qui peut être hostile. Et le deuxième point, une vie qui est marquée, qui prend comme modèle Jésus-Christ. Vous avez remarqué que quand on a lu le texte, à un moment donné, j'ai laissé la place à Isaac et Clémence, qui ont lu les versets 6 à 11 en binôme. C'est pas anodin. Parce que ces versets-là, plusieurs théologiens et la majorité des théologiens estiment qu'en fait, ces versets-là, ce n'est pas Paul qui les a écrits. Ils pensent que Paul a réutilisé ici un des tout premiers chants ou un des tout premiers hymnes ou poèmes chrétiens écrits par des chrétiens peut-être quelques années après la mort de Jésus. Je vais le réafficher. C'est un cantique à la gloire de Jésus. Et Paul le réutilise dans sa lettre. Ce qui est intéressant, donc ce texte nous parle de Jésus qui était Dieu, de la divinité de Christ, elle nous parle de sa mort, elle nous parle de sa glorification. C'est une sorte de condensé de la vie de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce que Paul cite ce texte ici. Est-ce que c'est pour parler de la divinité de Christ? Non. Ce que Paul retient, en fait, c'est deux éléments. C'est le fait que Christ a été obéissant et qu'il s'est humilié. Et c'est ça que Paul veut retenir. Et c'est ces éléments-là qu'il encourage les chrétiens de Philippe à vivre. Le message que veut faire passer Paul, c'est regarder Jésus. Regardez combien il a été obéissant, combien il a été humble, et faites vous aussi de même. Paul encourage les chrétiens de Philippe à s'inspirer de l'attitude de Jésus. Jésus nous a fait connaître les valeurs du royaume de Dieu, qui s'opposent aux aspects négatifs qu'on a mentionnés avant, qui s'opposent à l'aspect toxique de notre culture. Ce sont en quelque sorte des antidotes à ces éléments négatifs de notre culture. Si on reprend les cinq points qu'on a vus, on pourrait parler de l'amour. L'amour proposé par Jésus comme un antidote d'une culture de l'égocentrisme. La joie comme antidote d'une culture de l'insatisfaction. La paix comme antidote d'une culture de la violence. La vérité comme antidote d'une culture de la manipulation. Et l'espérance comme antidote d'une culture qui manque d'espoir. Et nous, en tant que chrétiens, on est un peu amenés à vivre comme des poissons qui vont à contre-courant. Il y a une sorte de courant qui porte. La culture, c'est quelque chose qui est très puissant, parce que c'est souvent inconscient. On n'a pas forcément conscience de ce qui dirige nos vies, oriente nos choix. Et en tant que disciples de Christ, nous avons à avancer à contre-courant. Quand on parle de Jésus, de prendre Jésus pour modèle, moi je me dis souvent, parce que ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est un discours qui est présent dans toute la Bible, enfin en tout cas dans tout le Nouveau Testament, et qui je trouve peut être parfois décourageant ou intimidant. Parce que ressembler à Jésus, c'est quand même mettre la barre très 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 haut. Et dans la suite du texte, Paul en rajoute une couche, si j'ose dire. À un moment donné, il parle quand même, il demande aux chrétiens d'être irréprochables, purs, sans défaut. Donc, être irréprochable, pur, sans défaut. Qui parmi vous est comme ça? Je vois pas de main qui se lève. Franchement, je suis déçu. Je m'attendais quand même à peut-être une ou deux personnes. Est-ce que c'est à notre portée, ce que Paul nous demande? On peut en douter, hein, si on est honnête sur soi-même, et je n'ai pas levé la main non plus. Et je pense que Paul serait d'accord avec ce constat. Oui, ce n'est pas à notre portée si nous voulons y arriver seuls. Et je pense que Paul nous donne un indice important au verset 12 et 13 qu'on va afficher. Au verset 12, c'est juste après donc, ce texte qui parle de Jésus, qui était au ciel, qui est descendu, qui est mort, puis qui a été glorifié. Et donc là, on voit bien, hein, c'est regardez comment Christ a été obéissant, ben, vous aussi soyez obéissants. Donc là, on voit bien cette idée de modèle. Mais, et c'est là, je pense que on peut commencer à se dire, ouf, ça y est, on n'est pas tout seul dans ce chemin-là. Paul continue en disant, agissez pour votre salut. Certaines traductions ont travaillé à votre salut, humblement, avec respect. Car c'est Dieu qui agit parmi vous et qui vous donne de vouloir et d'agir selon son plan bienveillant. Verset extraordinaire. Oui, il faut agir, il faut travailler pour notre salut, mais c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, la volonté et l'énergie. Il n'y a aucune raison de se vanter, hein, c'est un cadeau de Dieu. Il n'y a aucune raison, aucune excuse pour être passif. Et on voit dans ces deux versets que l'action de Dieu dans nos vies, pour ressembler à Christ, elle demande aussi de notre part une intentionnalité, de se lever, de se mettre en route. Et les deux, en fait, fonctionnent de manière presque simultanée. Je me mets en route et Dieu travaille en moi. Un peu comme lorsque, je ne sais pas si ceux qui ont connu la manière dont on éclairait sur les bicyclettes les petites dynamos qu'on devait avec la petite roulette, au fur et à mesure qu'on roulait, ben ça rechargeait la batterie. Ben, dès le premier tour de roue, la batterie commençait à se recharger. Dès qu'il y avait une sorte de simultanéité, je me mets en route, Dieu agit. Dieu nous donne les moyens de rechercher cet alignement de nos vies avec le modèle qu'est Jésus. Il le fait à sa manière, selon son projet bienveillant, pas mon projet, selon son projet bienveillant. Et c'est quelque chose qui se répète chaque jour. Je me mets en route et Dieu agit dans mon cœur. Dieu agit en nous pour nous donner le vouloir et le faire, pour nous donner la volonté et pour nous donner l'énergie. La vie de disciple se déroule dans un contexte, une culture hostile. La vie de disciple place Jésus au centre, par sa manière d'agir, mais aussi par son caractère. Et dernier point, la vie de disciple a un impact sur son environnement. C'est particulièrement clair à la fin du passage, que tous les flambeaux ici connaissent bien, puisque c'est ce verset-là qui a donné le nom au mouvement des flambeaux et des clairs-flammes. Paul appelle les croyants de Philippe à briller dans le monde, comme des lumières, comme des flambeaux, qui portent la parole de vie, qui portent les valeurs du royaume de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la vérité, l'espérance, et il y en a d'autres. Cet encouragement-là à rayonner, je pense qu'il est important. Et il est indispensable pour vivre une vie à la hauteur de l'Évangile. Il est indispensable pour vivre une vie de disciple. Il ne suffit pas de faire le bon diagnostic sur notre culture, de dire « Ah oui, on a une culture quand même violente, une culture où les fake news sont partout, une culture où quand on voit l'avenir qu'on réserve à nos enfants à cause de la crise climatique, il y a vraiment de quoi être désespéré. » Une culture où c'est de la culture du chacun pour soi. Tout ça, c'est vrai. C'est bien de faire ce diagnostic. C'est bien aussi de savoir que Christ apporte une solution. Que la bonne nouvelle, c'est que justement, on peut rencontrer, avoir une relation avec le Seigneur. mais ça ne suffit pas. Sur la base de ces deux premiers éléments, le diagnostic et la connaissance de la solution, Paul ici encourage à porter, à rayonner. Je pense que le risque existe pour les chrétiens de devenir cyniques, d'observer en fait notre monde de loin, de lire le journal, de regarder les infos sur Internet, de se dire que vraiment ce monde part en cacahuète, hein, que les dirigeants sont à côté de la plaque, que les partis politiques, on est appelé à voter aujourd'hui, on pourrait se dire mais à quoi bon aller voter ? Qu'en fait, tout ce dont le monde a besoin, c'est d'une rencontre avec le Seigneur, avec Jésus, avec le Créateur. Et puis on s'arrête là. On reste à distance. Ici, Paul, alors que le contexte est difficile et hostile, il encourage à se rapprocher des autres, à réduire la distance, à s'impliquer, à interagir, à échanger. Rester un peu plus loin, rester à distance, c'est beaucoup plus confortable. On va pas se salir les mains, on risque pas de se tromper, on risque pas non plus d'être blessé. Mais c'est une position qui ne permet pas de vivre à la hauteur de la bonne nouvelle de Christ. Et je dois reconnaître devant vous que c'est pour moi une tentation de rester à distance, à laquelle je succombe régulièrement. De me dire, ouais, franchement, quand on entend, voilà, encore ce qui s'est passé la semaine dernière au Nigeria, voilà, ça nous remue. Et puis on se dit, bon ben, voilà, on peut avoir voilà, des sentiments de dégoût, de lassitude, et en rester là, d'une certaine manière. On peut prier et en rester là. Prier, c'est déjà bien, mais ce que nous dit Paul, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut aller dans le monde sans être du monde. Et ce troisième et dernier aspect de la vie de disciple va nous amener à poser les questions suivantes qui nous impliquent. Comment est-ce que moi, je peux cultiver l'amour dans cette culture de l'égocentrisme ? Comment est-ce que je peux cultiver la joie ? Comment est-ce que je peux cultiver la paix ? Comment est-ce que je peux cultiver la vérité ? Comment est-ce que, à mon niveau, à mon échelle, dans mon environnement dans lequel je vis tous les jours, je peux cultiver l'espérance dans une culture en manque d'espoir ? Ça, c'est des questions qui nous impliquent. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. La Bible nous donne quelques pistes à creuser, je pense. Mais en fonction de notre caractère, en fonction de notre parcours de vie, en fonction de là où on est placé par le Seigneur, dans notre travail, dans notre famille, en fonction de notre culture, de nos dons et de nos défauts, on va pouvoir répondre peut-être de manière différente à ces questions. Et c'est pour ça que cette troisième partie, en fait, elle va être très réduite. Parce que je vous propose que ce soit cet après-midi, qu'on ait un échange tous ensemble avec ceux qui souhaitent rester ou revenir à 14h, qu'on puisse se poser ces cinq questions-là, qu'on puisse, et c'est pas moi qui vais parler ou Élisée, ça sera, l'idée c'est qu'on puisse avoir un échange, parce que c'est, je pense qu'on a tous des idées en fait, on a tous peut-être des témoignages par rapport à ces questions-là. L'idée c'est que cet après-midi, en plus petit groupe, on puisse échanger sur ces questions-là, s'encourager, peut-être se donner des pistes, avoir des petites graines que l'on va pouvoir ramener chez soi pour justement cultiver des idées pour être des porteurs d'amour, de paix, de joie, d'espérance, de vérité. C'est sans doute par l'échange qu'on va pouvoir aussi avancer en tant que disciple dans ce chemin-là. Donc restez, il y a un temps de repas en commun. Même si vous n'avez rien préparé, vous n'avez rien amené, restez. Et puis ensuite, ça se passera de 14h à 16h. Vous aurez même encore le temps. Il fait jour jusque très tard. Donc, vous pouvez encore aller vous promener. Et puis, il va faire chaud entre 14h et 16h. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous, faire une petite sieste et revenir à 14h pour partager, pour échanger, réfléchir ensemble sur ces questions-là. Et il y aura le temps pour voter aussi. Ouais, exactement. Une vie à la hauteur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça implique aussi de se rappeler quelle est cette bonne nouvelle de Christ. Et c'est ce que nous voulons faire aussi maintenant, en nous rappelant de l'œuvre de Christ pour nous, en partageant le pain et le jus de raisin. C'est des symboles qui nous renvoient près de 2000 ans en arrière, quand Jésus a réuni ses disciples à Jérusalem pour manger un repas traditionnel pour les Juifs, le repas de la Pâque juive. Et c'était la veille du jour où Jésus a été crucifié. Ce repas traditionnel juif où on mangeait du pain sans levain et où on buvait du vin, Jésus en fait en révèle le sens réel, le sens profond, que ce pain était le symbole de son corps qui allait être brisé, que ce vin était le symbole de son sang qui allait être versé. Et en partageant maintenant la Sainte Cène, nous nous rappelons de la mort de Jésus à la croix. Cette mort qui s'inscrit dans un plan de Dieu très large à l'échelle de l'univers, du cosmos, et que le poème qu'on a lu à l'intérieur de ce passage de Philippiens nous rappelle et qu'on va relire. Jésus possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Manger de ce pain, boire de ce jus de raisin, en mangeant et en buvant, je vous invite à avoir dans le cœur de la reconnaissance pour cette œuvre extraordinaire de Dieu, qui par amour a envoyé son Fils mourir sur la croix. Ce Fils qui n'est pas resté sur la croix, qui est ressuscité, qui est remonté au ciel et qui règne désormais pour les siècles des siècles. De la reconnaissance, c'est aussi se rappeler que c'est Jésus-Christ le Seigneur, qu'il est aussi le Seigneur de nos vies, de ma vie, de ta vie. Et si ce n'est pas le cas, prends peut-être quelques moments pour réfléchir, pour apporter devant le Seigneur tes doutes, tes questions, tes incompréhensions et tes incertitudes. Si le sens de ces éléments pour vous aujourd'hui n'est pas encore clair, vous n'êtes pas... Voilà, il y a une liberté. Vous pouvez ne pas participer à ce repas sans aucun jugement. Si pour vous, ce pain et ce jus de raisin symbolisent et vous permettent de vous associer à cette reconnaissance, de la Seigneurie de Jésus-Christ sur le monde et sur nos vies, vous êtes cordialement invités à participer à cette Sainte Cène. Je vous invite à la prière et nous partagerons ensuite le repas du Seigneur. Seigneur Jésus, oui, tu, comme le rappelle ce poème des premiers chrétiens, tu as accepté d'être dépouillé, tu as accepté de prendre notre condition, de devenir un homme, et tu as été reconnu comme un homme. Les témoins l'attestent, c'est une réalité, c'est une vérité. C'est une réalité que tu es mort à la croix, c'est une réalité que tu es ressuscité corporellement et que tu es aujourd'hui assis sur le trône à la droite de ton Père. Et nous voulons maintenant, tous ensemble, en tant que communauté, venir devant toi, reconnaître que tu es le Seigneur. Reconnaître que nous sommes étonnés par l'amour que tu as manifesté pour nous. Reconnaître que nous sommes pleins d'amour pour toi en retour. Merci parce que tu, par ta mort, tu as ouvert le chemin de la réconciliation avec Dieu. Parce que cette réconciliation, elle est possible à tout âge. Elle est possible à tout moment de notre vie. Elle est ouverte encore aujourd'hui. Amen. Je vais demander à Rebecca, Daniel et Jean-Pierre, si vous voulez bien venir. Okay.